Oui. Pourquoi on dit que il s'agit d'une épave qui est vieille pour le secteur?
Vieille tout court, premièrement, c'est déjà quand même quelque chose, parce que quelque chose qui aurait 150, 200 ans, probablement que ça serait tellement dégradé qu'elle n'aurait probablement même pas pu être détectée par les autorités. Donc, oui, c'est une épave vieille, parce qu'en général, les épaves du secteur de Rimouski, bon, il y a des bateaux de pêche, il y a des barges des années 50, 60, il y a toutes sortes d'embarcations, vous savez, mais dans le cas présent, on parle de quelque chose qui appartient au siècle dernier, en
Oui.
fait, le siècle avant le siècle dernier. Hein.
Oui. Maintenant qu'on sait que l'épave est là, comment on peut, parce que moi, je connais vraiment pas les règles de plongée, là, qu'elles soient provinciales, nationales ou internationales, mais maintenant qu'on sait que l'épave est là, et en plus qu'on sait qu'elle est vierge, ça pourrait intéresser beaucoup de monde ou pas tant de monde que ça. En d'autres mots, est-ce qu'on pourrait voir, je sais pas, moi, des plongeurs qui font pas partie de votre club, débarquer là l'été prochain, puis aller sur l'épave. Là, je mets ça beau, puis je mets ça facile, puis vraiment peut-être trop à la base, là. Mais maintenant qu'on sait qu'elle existe et qu'elle est vierge, me semble que c'est comme un buffet pour les plongeurs, non?
C'est un buffet. Oui, d'une certaine manière, mais encore là, plonger dans le fleuve Saint-Laurent à cette hauteur-là, comme je vous disais en début, c'est pas une mince affaire. Il faut vraiment que les astres soient alignés. Il faut avoir une bonne équipe. Il faut trouver l'épave. C'est pas tout de savoir exactement où elle se trouve. Encore faut-il être capable de descendre dessus, là. Faut établir un lien entre le bateau des plongeurs et l'épave. Et ça, c'est pas toujours facile quand on a affaire à une petite épave dont le relief dépasse à peine le fond, là.
Oui, j'imagine aussi, parce qu'on dit que l'épave repose à une profondeur de 25 à 30 mètres. 30 mètres, là, on n'est pas loin de 100 pieds de profond. J'imagine aussi que
Exact.
c'est pas n'importe qui plonge à 100 pieds, là.
Non, la profondeur en soi, c'est pas un obstacle majeur,
Non,
là.
non.
Maintenant, avec la plongée technique, on peut atteindre des profondeurs de 200 à 300 pieds, donc presque 100 mètres. Évidemment, 100 mètres dans les tropiques, 100 mètres dans le fleuve Saint-Laurent, quand il fait complètement noir et qu'il y a du courant et que la visibilité parfois peut à peine dépasser 1 mètre, c'est un autre monde complètement. Et malheureusement, ou heureusement, ben, il n'y a pas énormément de plongeurs là, qui peuvent faire ça en toute sécurité sans se mettre en danger, là.
D'accord. En terminant, M. Pelletier, est-ce que le ministère de la Culture, parce que Madame, dans son texte, écrit que la prochaine étape appartient au ministère de la Culture, à votre avis, est-ce que le ministère a avantage à procéder au plus vite avec cette épave-là, c'est-à-dire de mettre des balises, de la considérer comme faisant partie du patrimoine, en fait, pour s'arranger. Que ce ne soit pas pillé par n'importe qui, n'importe comment, si on veut la protéger ou encore remonter du fond certains artefacts qui pourraient ensuite être produits au musée de la mer à Rimouski ou je ne sais pas à quel endroit. Mais est-ce que maintenant qu'elle est connue, est-ce que le ministère devra procéder assez rapidement s'il veut bien sûr la protéger?
Oui, ben ça, cette décision appartient à la direction des opérations en patrimoine. Nous, on a fait notre travail de les aviser. Ensuite, c'est eux qui décident d'attribuer ou non une importance patrimoniale à un monument ou à un autre. Vous savez, il y a des monuments terrestres qui sont aussi classés bien patrimoniaux. Je ne pense pas, personnellement, qu'on a affaire à une épave révolutionnaire comme l'Empress of Ireland ou quelque chose qui est vraiment révélateur là, d'une autre époque. C'est un artefact intéressant en matière d'histoire maritime. Maintenant, oui, idéalement, il faudrait toujours être capable de protéger tous ces magnifiques types là, pour éviter qu'ils se dégradent. Mais encore là, ça implique beaucoup, beaucoup de moyens. Et puis, quand on déclare un bien classé, patrimonial, ensuite, il faut investir pour le protéger. Alors ça se fait pas en criant ciseaux ou en donnant un coup de baguette magique. Là, il faut que les plongeurs, il faut éduquer la communauté des plongeurs à s'assurer pour la pérennité en fait des lieux de plongée. C'est important parce que si tout le monde commence à arracher des morceaux pour se faire sa collection personnelle, à la fin, il reste plus rien. On sait maintenant que plonger l'Empress est moins intéressant que dans les années 70-80. La majorité des beaux morceaux
Oui.
intéressants ont été enlevés. Là.
Donc, pour répondre à ma question, si je comprends bien, là, vous êtes en train de me dire que si le ministère décide que c'est un bien patrimonial, ils vont devoir agir quand même assez rapidement après pour protéger l'épave. Mais si jamais ils décidaient de laisser passer pour toutes sortes de raisons, ça veut dire que n'importe qui en est capable pourrait aller plonger puis prendre ce qu'il veut, là.
Malheureusement, oui, parce qu'il n'y a pas de police en permanence, 24 heures sur 24, au-dessus d'un site d'épave. Le fleuve, c'est quand même très, très vaste à protéger, à surveiller. Donc, évidemment, je pense que les autorités fédérales, provinciales ont quand même d'autres intérêts là que de simplement s'assurer de l'accès à une épave. Donc, oui, c'est quelque chose quand même qui est difficile à mettre en place. Donc, c'est de là l'importance de l'éducation de la communauté des plongeurs à s'assurer là, vraiment de la pérennité des sites de plongée. Là.
Très intéressant. Merci d'avoir commenté.
Ça me fait plaisir, cher monsieur.
Au revoir. Sébastien Pelletier, président du club Les plongeurs d'épave technique du Québec.